Radio Lac présente La Vie de quartier.
Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous politique accessible. La Vie de quartier s'adresse à tout le monde, pas besoin d'être expert en la matière. On recueille vos opinions de Genevoises et Genevois sur quelques objets des prochaines votations. C'est la quatrième et dernière fois qu'on se retrouve cette année puisque le 24 novembre auront lieu les dernières votations de 2024. Je m'appelle Marie-Ève Musy, je suis accompagnée à l'animation par Benjamin Smadja.
Depuis ce lieu emblématique à la Potinière, à deux pas du pont et peut-être demain de la passerelle du Mont-Blanc, on va en parler dans un instant. Nous allons également ce soir nous intéresser au troisième tube du tunnel du Rosenberg, de l'A1 entre Berne, Vangdorf et Schnebühl, mais surtout d'un possible élargissement de l'A1 entre le Vengeron et Nyon, parce que oui, c'est tout un vote national. Donc ce sont six lieux qui sont concernés et nous terminerons sur un moyen de transport qu'on aime bien critiquer, les TPG et surtout les décisions de tarification qui pourraient être revues.
Et donc le premier objet est celui qui se trouve physiquement le plus proche de nous.
Faut-il ajouter une nouvelle passerelle pour piétons et vélos afin de désengorger le pont du Mont-Blanc, faciliter les déplacements de tout le monde? Si les partisans mettent en avant des arguments écologiques, de sécurité aussi, en faveur d'une mobilité verte et durable, les opposants vont s'inquiéter des coûts, de l'impact sur notre beau paysage de la rade. Il est emblématique. Alors oui ou non, c'est la question à 54 millions.
Pour en discuter, derrière les micros, nous avons Nicolas, chercheur en histoire, 29 ans, Damian, comédien, 30 ans, Alexis, étudiant en droit, 22 ans, et Gabriel, étudiant et président du Conseil de la jeunesse et du canton de Genève, 19 ans. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir. Bonsoir.
On va commencer avec un tour de table. J'aimerais savoir déjà si vous vous prononcez pour ou contre la passerelle et quel est votre mode de transport habituel.
Damien. Alors, me concernant, j'utilise les transports publics et je me prononce pour la passerelle.
Nicolas ?
Oui, Nicolas. Alors moi, je défends aussi la passerelle avec certaines réserves, mais que j'expliquerai par la suite. Et je me déplace presque tout le temps, et aujourd'hui aussi, à vélo.
Alexis ?
Je dirais que je me positionne plutôt contre cette passerelle. Et j'utilise comme moyen de transport principalement les TPG. Et de temps en temps, quand il fait beau et chaud, je prends le vélo.
Et Gabriel ?
Alors, moi, je me positionne aussi essentiellement contre. Mais c'est vrai que, je dois dire, j'utilise essentiellement la moto. Pour me transporter à droite à gauche du...
Exactement. C'est une moto qui va vite. Mais je constate pour le coup, alors Alexis, vous avez dit, moi j'utilise principalement les TPG aussi. Donc ça veut dire que vous faites partie de ces gens qui, même s'il ne faut pas les mettre en opposition, qui utilisaient plutôt une mobilité douce, pourtant, vous n'avez pas envie d'avoir un petit peu plus de place pour marcher.
Je trouve que chaque moyen de transport a sa place dans notre canton. Les mettre en opposition, c'est contre-productif. Et puis, je pense que le mérite de ce projet, et c'est en ça que je le soutiens en partie, c'est qu'il a le mérite justement de laisser à chaque mode de transport, les vélos, les piétons, les bus et les voitures, la place pour se mouvoir dans notre canton qui est très petit et relativement congestionné, surtout en heure de pointe. Et donc, je trouve que le projet a ce mérite-là.
Vous êtes pour, finalement, alors ?
Alors non, il y a un point d'achoppement. Non, alors, sur le fond du projet, je dois m'aligner avec la plupart des parties. Je trouve que le projet est très bon. Néanmoins, ce qui me pose problème, et je pense que ça posera également problème pour une grande partie des Genevoises et des Genevois qui vont voter le 24 novembre en ville de Genève, c'est la question du financement de ce projet. Aujourd'hui, vous avez un projet à 54 millions.
602 000.
602 000, tout à fait. J'ai pris le chiffre en dessous pour être un peu plus généreux. Mais on peut évidemment dire que le projet ne sera pas entièrement financé par la ville de Genève. La ville de Genève prendra en compte à peu près 26 millions à sa charge. Mais pour moi, ce n'est pas une raison. Ce projet a un coût disproportionné par rapport à ce qu'il apporte à notre canton.
Parce que Damien, vous êtes d'accord, ça coûte trop cher pour faire un peu de place aux piétons et remettre aussi les vélos, parce que ça va aussi compléter ce lacustre que les vélos ne savent plus trop où aller en ce moment.
Je suis en partie d'accord, parce qu'en tant qu'écologiste, je suis toujours en faveur des économies de moyens. Et il y avait déjà de la place sur le pont pour plus de mobilité douce. J'aurais été en faveur peut-être d'une voie voiture en moins pour vraiment laisser la place aux voitures. Voilà un lapsus que vous ne noterez pas, j'espère. La mobilité douce, les vélos, les transports publics avaient leur place sur le pont du Mont-Blanc. Là, je suis en faveur de cette passerelle parce qu'elle améliore le statu quo. Aujourd'hui, c'est très désagréable pour toutes celles et ceux qui traversent chaque jour ce pont. C'est dangereux. Et là, les piétons auront vraiment toute la place qu'il faudra pour traverser.
Vous auriez voulu une décision plus radicale, en fait, de prendre une partie dédiée aux voitures pour la mobilité douce ?
À titre personnel, oui. C'est notamment aussi l'avis de l'association Active Traffic, par exemple, que je pourrais soutenir, mais je suis très content déjà qu'une passerelle puisse améliorer le statu quo vraiment, vraiment atroce qui est sur ce pont.
Et est-ce qu'on a une idée du pourquoi de l'explosion du coût qui est passé quand même de 30 millions à presque 60 millions ? Est-ce qu'on sait pourquoi il a doublé en si peu de temps ?
J'ai l'impression que tous ces projets d'infrastructure et d'aménagement coûtent tellement cher par rapport à des budgets individuels. Je pense que les ingénieurs et architectes s'organisent, voilà.
Ben nous aussi, on s'organise ici, à la Potinière, également sur les réseaux sociaux de Radio Lac, puisque Magic Ouli nous fait quelques images et on se retrouve dans quelques instants. C'est la vie de quartier.
On vous souhaite une belle soirée à notre écoute. Que vous soyez en train de vous régaler ou de préparer un succulent repas au restaurant de la Potinière, on se régale, on déguste et en même temps, on débat. Et on n'a pas fini de parler de cette passerelle piétonne du Mont-Blanc. C'est Nicolas qui s'apprêtait à reprendre la parole à ce sujet. Pourquoi c'est bien de construire une nouvelle passerelle ?
Je pense que c'est une passerelle piétonne, mais il faut surtout insister sur le fait que c'est une passerelle pour la mobilité douce en général. Et actuellement, la situation n'est juste pas bonne parce qu'on a ces flux et ces piétons, ces cyclistes qui se marchent dessus, beaucoup de plaintes
là-dessus. En tant que cycliste, est-ce que vous pourriez l'expliquer peut-être aux personnes qui n'utilisent pas le vélo au quotidien, concrètement, comment ça se présente la situation ?
Il se trouve que, alors, dans un sens, le U pourrait être en partie fait, c'est-à-dire que les cyclistes ont une bonne circulation parce qu'ils ont leur petite bande cyclable à côté des voitures, certes, ce qui n'est déjà pas très bon pour les cyclistes, mais c'est surtout dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous venez de la rive droite et vous allez vers la rive gauche, vous avez plusieurs passages piétons et stop et tout, vous devez passer par-dessous, ce qui n'est pas du tout avantageux.
Vous mettez le pied à terre ?
Entre autres, le pied à terre, et souvent, eh bien, on se retrouve avec une bande pas tout à fait déterminée d'un des deux côtés du pont. Donc, en réalité, personne n'est satisfait, je crois, aujourd'hui. En tout cas, ni les piétons, ni les cyclistes. Et cette passerelle résout en grande partie, je dirais peut-être pas tout, mais résout en grande partie le problème parce qu'il y a effectivement ce U lacustre où vous pourrez faire tout d'une traite, en quelque sorte. Et ça, je pense, c'est vraiment nécessaire. Donc, c'est la solution qui a été trouvée pour cette passerelle et c'est pourquoi il faut la soutenir. Malgré, encore une fois, le fait que ça ne remet pas en cause la circulation automobile et c'est problématique, ça.
J'ai l'impression qu'on est plus sur un projet qui embête un peu tout le monde plutôt qu'un projet qui trouve une solution un peu pour tout le monde. Je me tourne vers vous, Gabriel, vous qui êtes plutôt motard. Il paraît qu'elle sera moche, cette passerelle, pour dire les choses.
Je laisserai la subjectivité de chacun choisir si une passerelle serait moche ou non. Mais en elle-même, la passerelle, c'est 54 millions dépensés pour éviter un contournement d'à peu près un kilomètre, un petit peu moins d'un kilomètre. À savoir que déjà, actuellement...
Bah, quand vous parlez du contournement, est-ce que vous pouvez préciser juste ?
Oui, pardon. Si on contourne tout simplement via Bel Air, on passe par Bel Air pour revenir là où devrait arriver normalement la passerelle du Mont-Blanc, c'est à peu près un kilomètre, voilà. Puis même actuellement, on peut passer avec le pont du Mont-Blanc. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu un faux problème. Un problème de... Est-ce qu'on va... Désolé du terme, mais claquer 54 milliards, millions. Pardon.
Si c'est ça, on vous excuse.
Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'on va réellement dépenser 54 millions pour, j'ai envie de dire, une question de pur confort citoyen. Surtout que c'est pas seulement la ville qui, pour la ville, c'est le canton aussi qui met du sien. Donc voilà. Faire payer aux contribuables 54 millions pour une passerelle qui n'est pas forcément nécessaire, voilà, ça la question.
Vous parlez de simple confort, mais il est quand même très utilisé, ce pont du Mont-Blanc, aussi par les piétons et les cyclistes. L'autre jour, moi, j'ai failli écraser un chien, justement, ouais. Parce que ce n'est pas séparé, la piste cyclable et les piétons. Et il y a un chien qui a passé sous la petite barrière et qui s'est jeté sous mes roues. Et donc, c'était presque la fin du monde. Heureusement, personne n'est mort.
Tant mieux pour vous et puis aussi pour ce chien. Mais c'est vrai que, alors oui, dans les faits, c'est un pont qui est pas mal utilisé, le pont du Mont-Blanc. On y voit aux heures de pointe aussi pas mal d'embouteillages.
C'est le plus utilisé à Genève.
Ouais, c'est le pont le plus utilisé à Genève. Il n'empêche que derrière, est-ce qu'un réaménagement en lui-même du pont ne serait pas à être pensé, plutôt que de dépenser encore une fois 54 millions de francs là-dedans.
C'est précisément ce que voulait par exemple Damien, c'était de réaménager le pont en enlevant une voie pour les voitures, donc ça répond à la question. Formidable, on fait ça.
Vous seriez d'accord avec lui, du coup ?
Non, pas forcément sur le fait d'enlever, par exemple, une voie.
Comment vous verriez la chose ?
Et après, Nicolas qui veut réagir, j'ai l'impression.
Tout simplement en essayant une autre forme de réaménagement, c'est-à-dire que rétrécir légèrement les voies, peut-être prioriser un mode de transport essentiellement, que ce soit purement piéton, par exemple, et puis que les cyclistes soient obligés de pousser leur vélo, c'est un exemple aussi. C'est des règles qui pourraient être mises en place pour fluidifier en lui-même le trafic sur ce pont.
Face à vous, Nicolas, vous regardez avec les yeux éberlués.
Non, alors moi, je voulais juste peut-être revenir sur l'idée qui était originale. Enfin, je pense vraiment qu'à la base, réduire effectivement le trafic motorisé voiture sur le pont du Mont-Blanc, c'est une idée. Je pense que la mobilité du futur, elle passe par davantage de mobilité douce, surtout en ville. Donc réduire une voie dans les deux sens, pour moi, c'était tout à fait envisageable. Maintenant, ce n'est pas la proposition sur laquelle on vote. Et je pense mieux vaut une passerelle qui, certes, coûte cher, mais au moins qui peut améliorer la mobilité que la situation actuelle. Et c'est pour ça que je voterai quand même plutôt oui. Juste à préciser une toute petite chose rapide, c'est qu'on parle de 54 millions, mais il y a aussi une grande partie qui vient, donc il y a le canton et la Confédération qui payent. Donc il ne faut pas croire que ce sont que les citoyens et citoyennes de Genève qui payeront cette somme. Je pense que c'était juste peut-être une petite précision pour le débat.
Au final...
Merci beaucoup pour la précision. On a très peu entendu Alexis sur la question. On lui laissera la parole juste après une pause musicale.
Le quartier donne son avis sur Radio Lac autour de la passerelle piétonne ou non du Mont-Blanc, sujet sur lequel nous allons voter, entre autres sujets, le 24 novembre. On n'arrête pas de le dire, la question à 54 602 000 francs. Je précise, pour rebondir sur ce qui a été dit un peu plus tôt, que ça sera une dépense nette pour la ville de Genève de 26 172 000 francs. Alexis, vous qui êtes plutôt contre, j'ai l'impression que vous étiez en train de vous faire un torticolis tout à l'heure lorsque vous entendiez certaines choses dites autour de cette table. Tellement vous dire, oh, mais non.
Alors, en toute honnêteté, j'ai dû me retenir de bondir de ma chaise. Non, très, très concrètement, l'idée qui est proposée aujourd'hui par certains partis, notamment à gauche, soit de réduire certaines voies potentiellement à l'avenir, parce qu'on sait que c'est une possibilité qui reste sur la table. Réduire une voie de voiture aujourd'hui, ou pourquoi pas en supprimer une, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui proposeraient cette idée. Je pense que ce n'est pas la façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, le pont du Mont-Blanc est un axe essentiel, si pas l'axe principal de Genève. Aujourd'hui, on sait que si le pont du Mont-Blanc est bouchonné, ou pour une raison XY est fermé, c'est toute la mobilité du canton qui s'affaisse, bus y compris. Et donc, cette proposition qui ne vise peut-être pas à fermer le pont en entier, mais ne serait-ce que supprimer une voie, donc réduire la mobilité des automobiles aujourd'hui, ça ne contribuerait non seulement pas à la fluidification, mais ça engendrerait davantage de bouchons bien avant le pont du Mont-Blanc.
Donc sur cet objet de vote qui consiste à rajouter, je le rappelle, une passerelle pour les piétons, les piétonnes, résoudre la problématique du U lacustre pour les vélos, parce qu'il y a quand même ce moment, c'est vrai, qui est extrêmement dangereux aussi. Et si vous me regardez physiquement, je ne suis pas celui qui fait le plus de vélos, mais je marche, c'est extrêmement dangereux. Et ne rien changer pour les voitures, pourquoi vous êtes assis chez les contres alors ? Je vous repose la question que vous avez posée un peu avant, parce que c'est sur ça qu'on vote, c'est pas sur le fait d'enlever une voie.
Mais tout à fait, et vous avez bien raison de le souligner. Là où je m'inscris en faux par rapport à ce projet, c'est le financement. Aujourd'hui, vous me revenez avec un projet qui est un financement beaucoup plus modéré, je le soutiendrai corps et âme, parce que l'idée, le fond de l'idée est bon, c'est le financement.
Alors comment on sait, c'est une question pour vous quatre autour de la table, comment on sait, nous citoyens, combien ça coûte un pont et une passerelle ? Moi, si on me dit cet esprit-là, je vais dire, bon, bah, ok, d'accord. Moi, je n'ai pas la moindre idée de combien ça coûte.
Je vais vous dire tout de suite que ça ne coûte pas 58 millions. 54 millions. Et 54 et des poussières.
Oui, oui.
C'est à mon avis, je pense que tout le monde s'accordera autour de la table que c'est un coût faramineux par rapport à ce qui est proposé.
Alors, c'est un coût peut-être faramineux selon vous, mais qui garantit quand même une bonne cohabitation entre les différents usagers et usagères de la route. Parce que moi, j'aimerais bien revenir aussi sur le meurtre du cycliste qui a eu lieu à Paris cet automne, où il y a une altercation entre un automobiliste et un cycliste, suite à quoi le premier a roulé sur le second et l'a tué. Est-ce qu'on pourrait parler des comportements des différents usagers agressifs à l'égard les uns des autres? Et puis, est-ce que ce ne serait pas une solution, justement, de construire une voie en plus pour que tout le monde s'entende bien, en fait, pour une meilleure cohabitation?
Je pense que pas toutes les fins justifient les moyens. Aujourd'hui, si évidemment, vous mettez sur la table le compromis de dire, bon, on évite des accidents avec cette passerelle, le cœur dirait que oui. Mais la raison aujourd'hui doit dire que cette passerelle n'est pas la solution dans la manière dont elle est financée, mais le fond de l'idée reste. Et puis je demande aux personnes qui ont initié ce projet, donc notamment l'exécutif de la ville de Genève, de nous revenir avec une meilleure proposition, avec un financement plus raisonnable.
C'est noté. Ce n'est pas toujours évident hein, quand le cœur se bat contre le cerveau, Benjamin.
Non, ça c'est sûr. Que je ne sais pas ce que dit le cœur ou le cerveau de Damien, mais ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu et je vous sens presque un peu résigné autour de ça.
Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est un projet qu'il faut accepter parce qu'on l'a mûri depuis plus de 15 ans. C'est un vieux projet. Il y a eu près de 50 propositions d'architectes. À écouter certaines personnes, on a l'impression que tout a été fait très rapidement, mais au contraire, 50 projets, c'est énorme. Un jury l'enjeu du prix était autour de la table. Il y a des normes SIA d'architectes et d'ingénieurs à respecter également, avec des devis qui sont faits pour chacun des projets. Et le prix est bien sûr dans la balance à titre important, avec l'esthétique, avec plein d'autres choses. Mais je crois qu'on peut aussi faire confiance aux personnes qui se sont penchées sur ces projets.
Et j'ai quand même le sentiment que lorsque l'on parle de mobilité, on est toujours l'embêteur, pour ne pas dire un autre terme, de quelqu'un. Les vélos sont embêtés par les voitures, les piétons sont embêtés par les vélos. Gabriel, peut-être.
Oui, alors bien sûr, tout le monde est embêté par tout le monde sur la route. C'est d'où peut-être certains actes de violence, puisque ça peut tendre. Mais il n'empêche que derrière, c'est toujours la même question. Et puis je rejoins mon camarade Alexis là-dessus. C'est-à-dire que quand on dépense, est-ce que dépenser autant d'argent est un réel bon motif pour arriver à cette fin qu'est plus de fluidité et moins de tension?
Il faudrait dépenser combien alors pour arriver
Justement, là sur cette question par exemple, pour donner un titre indicatif, c'est que 54 millions. C'est un budget qui pourrait être dépensé. Pour vous donner un exemple, les coûts qui sont calculés pour la gratuité des transports publics, c'est 32 millions. Donc, c'est 32 millions. En comparaison, un pont, justement cette passerelle, c'est 54 millions.
32 millions par année.
Par année. Hein. Certes, c'est par année, mais il n'empêche que...
Et 54 millions, c'est une seule fois.
Oui, ça fait un an et demi de TPG.
Alors non, mais il y a tout l'entretien aussi qui vient derrière un pont. Un pont, c'est à renouveler aussi de manière régulière. Il y a des enjeux aussi de sécurité qui sont plus importants avec les ponts. Donc la question qui se pose réellement, c'est est-ce que cette passerelle est réellement utile si on y dépense autant d'argent? Moi, je reviens toujours à cette idée de c'est presque un caprice de la part de certains pour pouvoir avoir une plus grande fluidité, à savoir que cette fluidité pourrait s'obtenir entre autres en réaménageant déjà ce qu'on a. On prend le quartier, justement, si on reprend Bel Air en lui-même, si on permettait une ouverture à la circulation routière, ça nous permettrait justement peut-être de désengorger un petit peu le pont du Mont-Blanc, permettant une plus grande fluidité.
Nicolas, est-ce que vous avez un mot de la fin pour ce sujet? On va continuer à parler mobilité, mais on va clore cet objet.
On va passer de la route à l'autoroute.
Vous avez envie de dire une parole de fin?
Je dirais que c'est un projet
qui
est soutenu par la plupart des partis quand même en ville de Genève, ce qui montre qu'il répond non seulement à un besoin, mais aussi il fonctionne et il convient. Et je pense qu'il ne faut pas toujours aller vers le moins en termes d'argent et en termes de dépenses. Donc un projet qui peut convient à tout le monde, c'est-à-dire cyclistes, piétons, automobilistes à Genève, qui permettrait aussi aux touristes et aux habitants simples d'être satisfaits, je pense qu'il n'y a aucune raison de s'y opposer. Donc j'espère vraiment que en ville de Genève, le oui l'emportera sur ce sujet.
Un grand penseur a dit, faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom. Dick Rivers, voilà. Ça me semble important de terminer cette intervention avec ça. On
Merci
va continuer bonjour. De parler route nationale, c'est la vie de quartier sur Radio Lac.
On entame la deuxième partie de la vie de quartier, à savoir un second objet de votation. On a dû faire une sélection, hein, on ne peut pas débattre de tout. Nous avons choisi l'étape d'aménagement des routes nationales. Le Conseil fédéral et le Parlement ont approuvé ce projet en 2023. Il s'agit d'une extension des autoroutes à 6 endroits clés afin, je cite, « d'éliminer les goulets d'étranglement qui causent des embouteillages ». Un référendum a été lancé contre l'arrêté fédéral. Selon son comité, les travaux prévus ne feraient qu'augmenter le trafic et coûteraient beaucoup trop cher.
Les membres du quartier pour donner leur avis, certains que vous avez déjà entendus. Damien, toujours comédien, toujours 30 ans. Nicolas, chercheur en histoire, 29 ans. Alexis, étudiant en droit, 22 ans, nous a rejoint. Estelle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes dans le développement commercial et vous avez 33 ans. Vos positions à chacun, chacune, Estelle, sur l'aménagement des routes ?
Je suis pour.
Pour toutes, parce que c'est ça aussi, c'est un vote national, on le rappelle. Hein, on ne vote pas que sur le tronçon Vengeron-Coppet, enfin Vengeron-Nyon.
Alors, je suis plutôt d'avis à suivre des recommandations là où je ne suis pas directement concernée. Maintenant, c'est clair que pour ce qui est de ce qui nous concerne de façon très proche, donc le Vengeron, je suis clairement pour, je pense vraiment que ça va fluidifier.
Alexis.
Je suis aussi pour, mais je suis très critique par rapport à ce projet dans la mesure où il reflète aujourd'hui les rapports de force au Parlement fédéral, c'est-à-dire les rapports de force entre les Latins et les Suisses-Allemands. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit trouver des meilleurs consensus pour notre pays et puis surtout pour notre région de Suisse romande.
Qu'en pense Nicolas ?
Moi, je suis absolument contre un projet qui est non seulement passéiste, mais aussi qui va à l'encontre en fait, de nos objectifs, que ce soit au niveau national ou au niveau international, environnementaux. Ça va coûter cher, certes, mais surtout l'aspect écologique qui propose problème. Et on va beaucoup se focaliser, évidemment, en tant que Genevois, sur le tronçon entre Nyon et Genève. Mais à l'échelle suisse aussi, c'est vraiment à l'encontre même de toute proposition futuriste cohérente. Donc je suis opposé.
Damien ?
Résolument contre également, sans surprise, dans un contexte d'urgence climatique, dans un contexte où on coupe à tous les étages, dans les retraites, dans les crèches, dans l'aide internationale, la liste est très très longue au niveau du Parlement. On ne va pas résoudre le problème des bouchons, on va créer du trafic induit, on va créer des problèmes d'entonnoir au niveau des villes. Bref, tout un programme.
Alors, est-ce que vous pourriez justement expliquer ce principe qui n'est pas forcément intuitif d'élargir les autoroutes provoquerait plus de trafic ? Pourquoi ? Comment ça se fait ?
C'est-à-dire que les gens prennent des décisions dans un contexte et ils analysent les différentes infrastructures à disposition pour voir lesquelles ils vont emprunter. Et évidemment, si les transports publics ne sont pas assez investis comparés aux autres infrastructures routières, ils vont prendre l'autoroute, ils vont emménager plus loin de leur domicile, ils vont peut-être prendre des cours plus loin, etc. Alors que la politique en matière d'aménagement, ça devrait être aujourd'hui la ville du quart d'heure, c'est-à-dire la règle de la proximité des commerces, du travail et de toutes les autres modalités de loisirs.
Parmi les pour le projet, qu'est-ce que vous dites à ça ? Peut-être que cet agrandissement des voies va faire changer certains usagers, vont abandonner le train pour prendre leur voiture. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que par rapport à ce qu'avait dit mon collègue, évidemment, l'idéal, c'est de travailler à 15 minutes de chez soi. Maintenant, la réalité est qu'à Genève, nous sommes un canton très attractif et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et du coup, par la force des choses, on attire des personnes de France voisine, on attire des personnes du canton de Vaud. Et je ne pense pas qu'il faut jeter la pierre là-dessus. Par rapport au financement, il faut faire la distinction parce que ce n'est pas un budget fédéral. Donc quand vous parlez de coupes dans le budget fédéral, ici, on n'en parle pas parce que c'est un fonds exprès qui est alimenté aujourd'hui par les automobilistes, par le biais des radars ou par le biais des vignettes autoroutières, par exemple.
C'était quoi, juste pardon, la question de Marie-Ève ?
C'était, est-ce qu'il n'y a pas des usagers ou usagères du train qui vont se mettre à la voiture ?
Non, je pense...
Un peu
non,
en se disant, chouette, il n'y a plus de bouchons, la route est à moi.
Non, je pense que très honnêtement, les gens ils vont pas adopter cette mentalité-là. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui adeptes au train vont vouloir continuer le train. Et par hasard, si demain, il y a trois autoroutes qui poussent, ils vont se dire, bon, OK, je sors ma voiture, mais...
Vous êtes usager de ?
Du bus.
Du bus.
Et
du
si
bus.
Vous devez faire vos vaccins et aller jusqu'à Lausanne ?
Ah, mais je prendrais le train.
D'accord.
Très honnêtement. Non, mais je l'assume. Et je pense que les gens, ils ne vont pas se réveiller demain. Ah, il y a trois voies d'autoroute. Et du coup, je vais commencer à prendre ma voiture. Je pense que ce n'est pas comme ça que les gens vont raisonner. Et le problème reste le même. Par exemple, si je suis un pendulaire de Morges qui vient travailler à Genève, il y a un problème qui reste en suspens, au-delà du transit, c'est la question du stationnement à Genève.
Nicolas, pour vous, plus d'autoroutes, c'est moins de monde dans les trains ?
Peut-être, c'est un risque, mais même en fait, c'est peut-être qu'il y aura toujours autant de monde dans les trains, mais simplement, il y aura beaucoup plus de gens sur les routes. Et c'est ça le problème fondamental de cette politique. C'est-à-dire que si vous augmentez simplement le trafic autoroutier, alors je ne parle même pas ici des terres agricoles qui sont détruites, parce que ces projets vont détruire des terres d'assemblage, etc. Mais c'est aussi toute l'abrasion des pneus et tout. On sait que ça va augmenter le gaz carbonique dans l'atmosphère, donc on sait très bien que plus de voitures, c'est nocif pour toute la population et pas seulement celle qui vit autour. Et alors là, après, il y a toutes les questions de parking et tout, effectivement, d'encombrer les villes, parce que forcément, ces gens ne disparaissent pas. Ils sont sur l'autoroute, ils sont plus nombreux, ils seront aussi plus nombreux ensuite dans les villes. Donc c'est vraiment tout un cercle vicieux qui se met en place. Et là, je parle vraiment d'un point de vue même juste philosophique. Est-ce qu'à l'avenir, nous voulons davantage de voitures et toujours une mobilité individuellement autorisée ou non ? Et à cette question, nous répondons clairement non.
Estelle a envie de réagir à ses propos. Elle le fera juste après cette chanson.
Depuis la Potinière, en plein cœur de Genève, avec Nicolas, avec Estelle, avec Alexis, avec Damien, nous nous intéressons à l'élargissement des routes. J'ai l'impression qu'il y a un côté serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il y a beaucoup de voitures, donc il faut plus de voies. Et en face, on dit s'il y a plus de voies, alors il y aura beaucoup de voitures. Estelle, on ne vous a pas encore entendu.
Je suis pas alignée avec certaines choses qui ont été dites. Déjà, je pense que c'est assez faux de mettre en opposition les routes et les rails. Les deux doivent être complémentaires. C'est un développement d'ailleurs qui est pensé dans son ensemble. Ensuite, de dire que quand on va avoir plus d'autoroutes, ça va. Enfin, il y a un problème écologique derrière. Je suis pas non plus complètement alignée puisque moins d'embouteillage, moins de CO2. Je pense que c'est quand même un point qui doit être important d'être soulevé. Et puis, quand on pense à la fluidité de notre trafic, on ne pense pas juste à « je vais remplacer mon utilisation du train par de la voiture ». Je pense que là, aujourd'hui, on a un vrai problème qui se pose aussi au niveau de la sécurité. Quand on est des transporteurs ou quand on a besoin de déplacer du matériel de Genève à Lausanne et qu'on est obligé de le faire en voiture, il n'y a pas d'autre moyen. Et on voit le trafic, comme il est important, ce n'est pas quelque chose qui va se rapatrier sur du train à aucun moment. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même qu'on trouve des solutions, qu'on fluidifie ça. Et que quand on voit le nombre d'accidents qu'il y a sur cette route entre Genève et Lausanne, c'est dramatique. Et je pense que de pouvoir fluidifier et avoir plus d'espace, c'est une solution à tout ça.
Bon, les accidents ne sont pas forcément dus au manque de place. Ça peut aussi être dû aux personnes qui conduisent mal. Par rapport à ce que Nicolas a dit sur le fait que les gens qui prennent l'autoroute ne vont pas disparaître dans les villes ou les villages, parce que le but quand même de l'aménagement est de désengorger les quartiers d'habitation. Ils ne vont pas se volatiliser à la sortie d'autoroute. Ils vont continuer à empiéter sur les villes. À partir du moment où il y aura plus de voitures qui vont s'engager sur l'autoroute, il y aura plus de voitures au départ et à l'arrivée dans les villes.
Mais pourquoi est-ce qu'on part forcément du postulat que c'est parce qu'on va avoir plus d'autoroutes qu'il y aura plus de voitures ? On peut aussi juste simplement se dire qu'il n'y aura pas forcément plus d'usagers, mais qu'on va fluidifier le trafic et qu'il y aura peut-être moins de temps à mettre pour aller d'un point A à un point B et que ça va, d'un point A à un point B, en pensant qu'il y a des arrêts entre et que du coup, ce sera une fluidité et pas forcément plus d'usagers. Parce que les usagers sont déjà là. On a déjà des embouteillages entre Genève et Lausanne, par exemple. Donc, de fluidifier ce trafic entre ces deux points, par exemple, pour ceux qui s'arrêtent à Morges, pour ceux qui s'arrêtent entre-temps, je pense que c'est un point qui en fait, où on n'est pas en opposition les uns avec les autres.
C'est des études qui soulèvent cette question, notamment une étude qui a été mandatée par l'Association Transport et Environnement.
Je rappelle que chez nous, en Suisse romande, on parle donc de ce tronçon entre le Vengeron et Nyon, on parle donc de 19 km très précisément. Alexis, et l'écologie dans tout ça ?
Je pense que tout d'abord, l'écologie se trouve dans une mobilité fluide. Aujourd'hui, on peut vouloir investir aujourd'hui dans les CFF et je suis pour un investissement dans les CFF en parallèle de cette autoroute à trois voies aujourd'hui. Malheureusement, on est confronté à un mur aujourd'hui. Les CFF, on sait qu'on a trop de trains, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rajouter des trains sur les voies parce que...
Il y a une nouvelle voie qui est prévue à part ça. Hein.
Une nouvelle voie qui est prévue d'ici 2060. Et il faut pallier aujourd'hui. Le problème est actuel. Et certes, il y a un temps...
L'agrandissement de l'autoroute ne sera pas fait pour demain non plus.
Non, mais bien avant 2060, ça c'est sûr. Et donc aujourd'hui, l'argument à dire que... Évidemment, que c'est, oui, c'est contre l'environnement.
400 000 mètres carrés d'espace vert et de terres agricoles en moins.
Oui, bah, ceux qui aiment utiliser cet argument, lorsqu'on leur dit que c'est pour des pistes cyclables, je ne les vois pas s'exciter.
Alors, ce sera probablement moins de mètres, non ?
Sans doute, mais moi, j'ai ouvert mon dictionnaire, j'ai regardé rictus et il y avait une photo de Nicolas. Je ne crois pas que vous soyez d'accord.
Mais un beau rictus.
Bon, non, mais je souris un peu en entendant tout ça, parce que ne faire croire qu'on ajouterait une troisième voie à l'autoroute et que ça ne changerait rien à l'utilisation et surtout en termes d'écologie, c'est juste faux. Évidemment que si vous avez des plus grandes voies, une plus grande utilisation des routes, ça crée forcément davantage d'émissions de gaz carbonique, et sans parler des terres agricoles. Je pense qu'on est comme tous d'accord, enfin peut-être pas tous, mais j'espère le plus d'entre nous ici pour soutenir l'agriculture suisse et aussi le paysage et tout. Et donc dire on peut rajouter des nouvelles voies ici, là, et puis ça ne va rien changer. Non, tout à fait, il y a une complémentarité entre le rail et la voiture, ça c'est évident. Et les gens qui sont obligés d'utiliser la voiture ne vont pas disparaître. Mais c'est vers une augmentation. Aller vers une augmentation est complètement contraire, en fait, aux objectifs qui sont annoncés aussi par la Confédération. Donc c'est là où je pense que on peut soutenir davantage le rail. Et il y a quand même une question de vase communicant. L'argent que vous mettrez dans ces autoroutes, c'est l'argent que vous mettrez peut-être pas ailleurs. Et ça, il faut quand même bien être d'accord. Damien l'a dit avant, et c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, on coupe dans tous les budgets. On coupe énormément au niveau fédéral, on n'en parle pas souvent, mais on coupe systématiquement partout. Et je pense que donc clairement, mettre encore plus d'argent dans les routes, c'est juste pas défendable quand on est obligé de faire des limites ailleurs.
Et on va couper aussi la discussion, mais on la reprendra. Pas d'inquiétude, on la reprendra dans 3 minutes. À tout de suite. Et on parle toujours du réaménagement des routes nationales dans la vie de quartier. Alors, est-ce que les personnes qui défendent ce projet, Alexis, quelles sont vos pistes pour une planification des transports réfléchis et durables ?
Aujourd'hui, on nous annonce la mort tragique du transport individuel motorisé. Je ne pense pas que ça sera la mort du transport individuel motorisé, mais plutôt la transition de celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, il faut miser sur l'innovation. Aujourd'hui, on est à la porte des voitures à hydrogène, et je pense que celles-ci réellement vont faire une différence et vont pouvoir permettre ceux qui sont attachés particulièrement au transport individuel motorisé à continuer à utiliser une voiture. On sait qu'aujourd'hui, la voiture électrique n'est malheureusement pas la solution, à moins que nous trouvions une technologie demain qui puisse faire que construire une batterie est écologique. Mais je pense qu'il faut parier aujourd'hui sur la voiture à hydrogène et qu'il ne faut pas tout de suite annoncer la mort du transport individuel motorisé.
Damien, l'hydrogène ?
Je pense que la technophilie de mon préopinant est juste une fuite en avant. Et on le sait aussi avec les batteries des voitures électriques, que c'est certes moins de gaz à effet de serre, moitié moins qu'une voiture classique, mais on sait aussi que la construction de ces batteries implique tout un tas de minerais qui sont extraits dans des façons totalement contraires aux droits humains. Je pense qu'aucun de nous n'a envie d'avoir un enfant qui va dans une mine de cobalt récolter les minerais pour nos batteries. Et je pense qu'il faut le rappeler, on s'inscrit dans un contexte d'urgence climatique. Les plans au niveau Genevois, c'est 40% de transports individuels motorisés, soit de voitures en moins d'ici 2030. Ce plan climat a été fait en 2018, sauf erreur, et c'est en fait un changement de paradigme. Toutes les politiques publiques d'aménagement, d'urbanisme, de mobilité appellent à ce changement de paradigme qui est radical. Regardez autour de vous, sur les routes, il doit y avoir presque moitié moins de voitures d'ici 2030. C'est énorme ce qu'on doit faire et c'est vraiment pas le moment d'investir.
Parce que précisément sur la question de la technologie des voitures, moi ça fait maintenant 17 ans que je fais de la radio, ça fait 17 ans que je dis le soir, il y a des bouchons, quelle que soit une voiture électrique à hydrogène ou à essence, il y a de toute façon des bouchons. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Damien, cette autoroute, le tronçon Vengeron-Nyon, a été construit dans les années 60, il a été pensé dans les années 50. À l'époque, il y avait 20 000 voitures. Il y a donc de facto un problème aujourd'hui. De toute façon, il faut le régler. Alors la question,
oui,
c'est comment il
mais
faut
oui,
le régler.
C'est ça dont on discute.
Oui,
on,
oui, mais, chacun, mais, on alors, mais du coup, je vous pose la question parce que est-ce qu'il faut de nouvelles solutions de transport qui n'existent pas encore aujourd'hui parce que cette troisième voie pour les CFF ne sera pas encore prête, ou est-ce qu'il faut dire aux gens, bah, on arrête de prendre la voiture, on garde les, ou alors on met un quota de voitures sur l'autoroute, je ne sais pas, c'est quoi la bonne solution ?
À travers les politiques publiques, on peut influencer le choix des usagers et usagères. Si vous avez des infrastructures de mobilité douce qui sont attractives, peu chères et qui ont une bonne desserte, vous encouragez les gens à prendre ces mobilités douces. Donc on a un pouvoir d'action en tant que politique.
Dans le public, on a une personne qui aimerait s'exprimer.
Ah, on l'a déjà entendu.
Gabriel, non, mais justement, Gabriel, on l'a pas entendu sur ce sujet-là.
Arnaud vous donne le micro.
Oui. Non, alors j'avais une question parce que, au-delà de la question de est-ce qu'il va falloir investir dans les technologies ou pas pour se mouvoir à l'avenir, c'était surtout, en fait, ce projet en lui-même, c'est le seul projet roman. C'est le seul projet roman d'aménagement sur les routes nationales. Les autres sont purement alémaniques. Aucun en Suisse italienne. Et je me demandais si ce n'était pas un projet qui était sorti de derrière les fagots pour donner du grain à moudre à la Romandie.
Alors, je réponds volontiers à cette question. Alexis. Qui est très pertinente, et je pense qu'aujourd'hui, je reviens sur les rapports de force au Parlement entre les Suisses alémaniques et les Latins, parce que c'est même plus les romans, c'est une question de Suisse latine aujourd'hui, c'est en gros de dire, les Suisses allemands savent à quel point cet axe autoroutier est important pour nous, en termes de mobilité, qu'ils se contentent de nous en donner un seul. Évidemment, l'idée, c'est que nous votions à l'avenir sur un autre projet qui terminerait essentiellement le projet autoroutier pour nous l'amener vers Genève. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut élire des parlementaires qui arrivent à négocier, se mettre autour de la table avec des Suisses allemands et arrivent à proposer des projets qui soient tout aussi avantageux, peut-être pas tout aussi avantageux, mais en tout cas plus avantageux que celui qu'on nous donne aujourd'hui, où on nous propose un seul axe autoroutier. Et je pense que ça passe par l'élection de personnes comme Cyril Hellen, comme Simone de Montmolin, comme Céline Amaudru.
On est là pour donner son avis, pas pour donner des recommandations de vote, non. Enfin, des recommandations de vote, si, sur les objets de vote, pas sur les gens.
On reprendra dans quelques minutes pour une dernière plage sur ce sujet. Je pense qu'il y a encore deux, trois choses à dire. À très vite.
La vie de quartier sur Radio Lac, subventionnée par la ville de Genève.